France Culture. Hey, you know what?
Les nouveaux chemins sillonnent quotidiennement les routes entre Tagaste, Rome et Hippone, en compagnie de Marianne Chassor, Mathilde Wagman, Géraldine Mosna-Savoie, Valentin Schmitt et Jean Danielou. À la lecture des textes contemporains du déclin de l'Empire romain, cette semaine, Georges Kless, à la réalisation de Révélations intimes, Midia Portis-Guérin, avec aujourd'hui à la prise de son carthaginoise, Tahar Boukhlifa. C'est le début aujourd'hui d'une série de 4 émissions consacrées à Saint-Augustin. Augustin, pour les intimes, et d'intimité justement, il en sera question chaque jour de cette semaine, tant l'expérience et la pensée du philosophe, telles qu'il les relate dans ses textes, les Confessions, La vie heureuse ou La cité de Dieu, rédigées entre 400 et 430, sont autant le récit du chemin qui conduit au seul bonheur véritable que l'exposé des moyens de ne pas devenir pour soi une terre de difficultés. La vie entière d'Augustin s'inscrit dans les dernières années de l'Empire romain d'Occident, d'abord infiltré, puis progressivement envahi de partout. Rares étaient ceux qui, comme Claudien, avaient pressenti la montée des périls. On vivait au jour le jour, dans l'insouciance. La nouvelle du sac de Rome par Alaric en 410 fut pour l'Illyrien Jérôme un vrai cauchemar. Mais Augustin n'en était pas vraiment affecté. Pour lui, l'essentiel était ailleurs. Les confessions d'Augustin se lisent comme on écoute une symphonie. La reprise du thème principal, énoncé par le « je », sorte de violoncelle lyrique qui répète à l'envi l'apaisement qu'est le sien depuis qu'il s'est rendu présent à Dieu. L'orchestration obtenue par le goût du jeu verbal, notamment dans le récit de ses turpitudes passées. Et enfin le rythme circulaire d'un moi vivant, hésitant, divisé, frappé par le regret amer et cheminant entre deux amours. Il y a dans cette autobiographie, sans aucun narcissisme, une théologie de la liberté et de la grâce. Mais c'est aussi, et enfin, un document psychologique hors pair. Avec les confessions, le « je » fait son entrée dans la littérature. Demain, Didier Ottaviani viendra vous proposer sa lecture du livre 11 des confessions, à partir de cette question « Qu'est-ce que le temps ?» Mercredi, Marianne Vanier vous présentera le long chemin de la conversion d'Augustin entre éthique et théologie. Et jeudi, c'est Benoît Bayer de Ric qui vous présentera Augustin dans la cité de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est Dominique Salin, professeur de théologie aux facultés jésuites de Paris, au Centre Sèvres, qui vient nous dresser un portrait d'Augustin en amoureux. Bonjour Dominique Salin.
Bonjour. Quelle est donc cette dilection ou cette charité que l'Écriture divine loue et proclame tant, sinon l'amour du bien? Or, l'amour est amour de celui qui aime, et quelque chose est aimé par l'amour. Voici donc ils sont trois, celui qui aime, ce qui est aimé, et l'amour. Qu'est-ce donc l'amour, sinon une sorte de vie reliant ou s'efforçant de relier deux choses, à savoir celui qui aime et ce qui est aimé? Et cela est jusque dans les amours les plus basses et les plus charnels. Mais pour recueillir quelque chose de plus pur et de plus transparent, foulons aux pieds la chair pour monter vers l'âme raisonnable. Qu'aime l'âme raisonnable dans l'ami, sinon l'âme raisonnable? Ici aussi il y en a trois, celui qui aime, ce qui est aimé, et l'amour. Il nous faut encore nous élever davantage et chercher autant que cela est donné à l'homme dans les régions supérieures, ce qu'il en est. Mais reposons-nous un peu maintenant, non dans l'idée que nous avons déjà trouvé ce que nous cherchons, mais en tant que nous avons trouvé où il y a quelque chose à chercher. Nous en avons suffisamment dit pour nous procurer le point de départ à partir duquel composer ce qui reste à dire.
Dominique Salin, comment comprendre que pour Saint-Augustin, en tout cas dans ce texte issu de la Trinité, l'amour est toujours triple. Nous sommes trois dans l'amour, dit saint Augustin.
Trois, c'est le chiffre de l'amour. Deux, c'est très gros de danger. Deux, c'est le narcissisme ou le totalitarisme. Ou bien l'autre devient le miroir dans lequel je m'admire, qui me rend l'image de moi qui me plaît et qui m'enferme dans mon narcissisme. Ou bien c'est moi qui vais le bouffer. Donc trois, c'est l'amour, comme disent les philosophes, médiatisé, c'est vrai. il y a toi, moi et le troisième. Dans le couple, en général, l'amour, qui est comme une tierce personne entre les deux amants, c'est l'enfant qui donne son visage à cette tierce réalité qu'il appelle l'amour et que, dans ses développements théologiques plus tard, il appellera l'Esprit Saint. L'amour, c'est cette sorte de vie. Vous avez entendu, il a dit, cette sorte de vie qui relie deux êtres. Et pour lui, il en va des réalités humaines comme de la réalité divine. Dieu est communion. Dieu n'est pas un... On ne peut pas parler de monothéisme au sens strict du mot dans le christianisme. Il y a du pluriel, il y a de l'autre en Dieu. Dieu est communion, communion à l'image de l'humanité. Ils sont trois, le Père, le Fils et leur amour qui est l'Esprit.
C'est ça, lorsque Augustin nomme ce troisième terme, il dit qu'il y a celui qui aime, celui qui est aimé et l'amour. Mais est-ce qu'il faut comprendre ici qu'il y a un amour de l'amour lui-même ?
Ah, il dit ça quelquefois. Il a dit, dans les confessions évoquant son adolescence, il disait « Je n'aimais pas encore », en parlant de la découverte qu'il fait des filles, « Je n'aimais pas encore, j'aimais à aimer ». Et il va mettre toute sa vie à découvrir ce que c'est que véritablement l'amour. Alors, puisque nous parlons de l'amour, amour de soi, amour de Dieu, c'est notre thème, je pense que, pour Augustin, un équivalent moderne, enfin, il faut partir de cette réalité que l'homme, au fond, l'amour c'est le désir. L'homme est désir. Aimer, c'est désirer. Désirer, c'est aimer. C'est une conviction très, très profonde chez Augustin. L'homme est désir. Il n'a pas en lui-même sa propre assiette. Sa consistance, son assiette, elle est hors de lui. Elle est quoi ? Ah ben, c'est le bonheur. Qu'est-ce que cherche l'homme ? Qu'est-ce qu'il aime ? Qu'est-ce qu'il désire ? Qu'est-ce qu'il passe toute sa vie à désirer ? Après quoi va-t-il courir pendant toute sa vie ? Après le bonheur. Pascal, disciple lointain mais ô combien attentif d'Augustin, au milieu du XVIIe siècle, le dira. Tous les hommes cherchent le bonheur, même ceux qui vont se pendre. Donc la recherche du bonheur pour Augustin, c'est le moteur de l'activité humaine et de l'amour. Alors, le bonheur, évidemment, pas au sens où nous l'entendons aujourd'hui, parce que depuis Saint-Just, le mot bonheur a des connotations, bon, c'est une idée neuve en Europe, c'est-à-dire que des connotations, je dirais, très, très... Le bonheur, c'est ici tout de suite, pour l'homme moderne. Pour Augustin, le bonheur, c'est quelque chose de plus large. Il a été à l'école des sages et des philosophes grecs et latins. Le bonheur, c'est ce qu'on traduit en général en français par « la vie heureuse », c'est-à-dire en latin « la vita beata », ou la béatitudo, la vie heureuse, le bonheur. Alors c'est beaucoup plus large que, je dirais, un hédonisme à court terme, encore que la découverte du vrai bonheur commence souvent par des expériences, d'hédonisme. Tout homme, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche le bonheur, la vie heureuse. Et la vie heureuse, où peut-elle être pour Augustin ? Il a fallu 33 ans pour s'en apercevoir. C'est en Dieu. En Dieu. C'est Dieu qui est le souverain bien, qui est le souverainement bon, le summum bonum, souverainement bon. C'est Dieu qui est le bonheur. Alors, l'homme cherche le bonheur, c'est-à-dire l'absolu, l'inconditionné, au plan psychologique, la sérénité, la paix du cœur. Il va la chercher, mais en général, il va se tromper, parce qu'il va commencer par la chercher dans les réalités matérielles autour de lui. Et mais il faudra du temps pour s'apercevoir que c'est pas ça.
Mais alors que reste-t-il du désir dans le bonheur, si le bonheur est l'amour de Dieu ? Puisque qui dit désir dit manque de quelque chose. Or, est-ce que le propre de l'amour qui se porte sur Dieu et qui est en Dieu n'est pas justement d'être plein et donc de ne laisser aucune place au manque ?
Voilà. Bien, pour Augustin, justement, le désir n'est pas tellement de l'ordre du besoin, du manque, au sens où le besoin peut être satisfait. Le désir, au cœur même de l'expérience amoureuse la plus intense, on continue à désirer. L'amour de Dieu, être possédé par Dieu, ou se laisser posséder par Dieu, ou croire qu'on possède Dieu, ça n'éteint pas en vous le désir, au contraire. Augustin a cette formule, l'amour étant le désir, et le désir étant l'amour. Je crois que tous les amants du monde peuvent en témoigner.
Quelle que soit la manière dont les navigateurs arrivent aux abords de la vie heureuse, tous ont à redouter un terrible danger et à redoubler de prudence pour l'éviter. C'est un rocher colossal planté à l'entrée du port et qui fait naître des difficultés pour ceux qui tentent d'y pénétrer. Ce rocher brille tant. Il est si bien revêtu d'une lumière illusoire qu'il est, pour ceux qui y parviennent et aussi pour ceux qui n'y sont pas encore, une invite à demeurer et une promesse de trouver là cette terre heureuse à laquelle ils aspirent. Mais rien de consistant, rien de solide en ce monument. Il engloutit les bouffis d'orgueil qui s'avancent sur son sol fragile et se crevassant sous leurs pas. Il arrache à leur demeure flamboyante ceux qui ne l'avaient pourtant qu'entrevu pour les faire rouler dans les ténèbres. Dominique Salin, pour tenter de comprendre à la fois le mécanisme du désir et la voie la plus sûre vers ce bonheur tant recherché par les hommes, Augustin procède à une distinction entre deux types d'objets. Il y a d'abord les objets qui permettent d'accéder aux objets de jouissance, c'est-à-dire qui ne procurent pas de jouissance en eux-mêmes, mais qui sont des moyens d'action vers cette jouissance, et les objets qui, au contraire, proposent une jouissance immédiate, mais donc éphémère. C'est l'outil d'un côté et fruit de l'autre. C'est le sens de la métaphore du rocher colossal, dans le texte que je viens de lire, tiré de la vie heureuse. Ce rocher colossal planté à l'entrée du port, puisque nous sommes tous des navigateurs en cette vie, qui nous attire par sa lumière, mais contre lequel on ne fait qu'échouer, tant il n'est qu'une illusion par rapport à ce qu'est véritablement notre désir et ce à quoi doit ressembler notre bonheur.
Tout à fait, cette tragédie de Charybde et Scylla, cette tragédie du désir qui se fourvoie, ben c'est toute l'histoire humaine, et ça a été d'abord l'histoire d'Augustin. Parce qu'en effet, ce désir de l'absolu, l'homme a du mal à l'identifier. Ce qui pourrait seul le combler, c'est Dieu. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, in quietum, sans repos, tant qu'il ne repose, requiescat in te, tant qu'il ne repose en toi. C'est Dieu. Mais voilà, Dieu, on ne le voit pas. En réalité, il y a un tas de choses qu'on voit qui sont beaucoup plus près de nous que Dieu, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus parlantes, beaucoup plus
alléchantes. La question du lieu est très importante, chez Augustin. Vous dites beaucoup plus près de nous, parce que où se trouve Dieu et où se trouve le
alors,
sujet même
du désir.
Il n'est pas là.
C'est plutôt dans une première approche. Il n'est pas là. En revanche, beaucoup de choses sont là. Et c'est dans ces choses-là qu'on va chercher le bonheur. Et c'est l'expérience qu'a fait Augustin. Donc, ce qui devrait être l'amour de Dieu, la dilectio, va devenir une cupiditas. On se laisse attirer par des objets qui nous aliènent, finalement. La réussite professionnelle pour la réussite professionnelle, le fric pour le fric, le succès pour le succès, etc., etc. Alors, on va parler de ça, mais je crois que pour éviter de rester dans des grandes généralités, il faut se rappeler qu'Augustin, l'amour de la vie, l'amour des créatures, la passion pour la vie, l'arrivisme, le besoin et le désir de réussite, c'est quelque chose qu'il a vécu très profondément pendant 33 ans. On ne souligne jamais assez qu'Augustin, c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui un born again. C'est quelqu'un dont la vie a complètement basculé à 33 ans. À 33 ans, il était parvenu à une situation tout à fait extraordinaire. Il était titulaire de la chaire de rhétorique de la capitale de l'Empire, qui était Milan cette année-là, puisque l'empereur résidait à Milan. C'était comme s'il était professeur au Collège de France, à l'ENA, à Polytechnique et à Normale Sup réunis. Et il était sur le point, dit-il dans les conventions, d'obtenir le gouvernorat d'une province. Donc il était très très haut, parti de très très bas. Son père était un petit paysan fauché du Maghreb, qui n'avait même pas eu assez d'argent pour payer les études supérieures à Carthage d'Augustin. C'est une bourse qui lui avait permis de faire ses études. Il avait connu une ascension formidable. La rhétorique, n'oublions pas, c'était la discipline reine dans cette civilisation orale. Celui qui a le pouvoir, celui qui a l'argent, celui qui décide, celui qui est le leader, c'est celui qui sait parler, toucher, argumenter, émouvoir, convaincre. Donc la rhétorique, c'est pas rien, c'est vraiment la discipline reine. Eh bien, il était le plus grand et le meilleur de son temps. Eh bien, à 33 ans, dans l'été 386, au mois d'août, La décision s'est prise en quelques semaines. Il a décidé de tout plaquer et de devenir moine, de se faire baptiser, de devenir moine et d'aller s'enfouir dans un petit bled paumé, le village de Soukaras où il était né, donc en Algérie, tout près de la frontière tunisienne, pour devenir moine et disparaître complètement de la circulation, alors qu'il était l'un des personnages les plus en vue de la cour impériale. C'est lui qui faisait les discours lors des grandes cérémonies. Il parlait à l'empereur et il parlait au nom de l'empereur. Donc c'était un type qui avait... Et alors, il avait été habité par... Un homme comme ça, les confessions, c'est le récit de ça. Comprenez, on ne fait pas une carrière comme ça, quand on part de zéro, sans être habité par un immense arrivisme. Et en réalité, cette conversion, qui a 33 ans, avait été précédée par une autre dont on ne parle jamais assez, dont on ne signe pas assez d'importance. À 16 ans, il avait voulu devenir un saint. 16 ans, c'est le moment où il commence ses études universitaires à Carthage, c'est le moment où il se met en ménage avec une jeune fille, probablement de son village, qu'il aimera beaucoup, à laquelle il restera complètement fidèle, malgré la légende, pendant 15 ans, qui lui donnera un fils, Adéoda, qui était un monstre d'intelligence, plus intelligent que moi, écrit-il, mais qui mourra malheureusement vers l'âge de 20 ans. Il donc, à ce moment-là, il découvre un bouquin de Cicéron, que nous n'avons plus, l'Hortensius, qui présente, sous couleur de faire le portrait de l'orateur idéal, le saint stoïcien. Et l'idéal de sainteté stoïcienne, c'est quelque chose, vous savez, c'est le christianisme, moins le Christ. Mais toutes les vertus chrétiennes, toutes les exigences chrétiennes sont, de l'évangile sont dans la spiritualité, la philosophie stoïcienne. À l'époque, les anciens, philosophie, spiritualité, c'était pareil, sagesse. Voilà. Il veut devenir un saint. Or, pendant 13 ans, il va être torturé par la différence, la distance qu'il constate entre son idéal et ce qu'il habite. Un arrivisme terrible, le besoin de l'argent, le besoin d'être reconnu, d'être le premier, de triompher, d'obtenir, non pas les disques d'or, mais enfin les couronnes de laurier dans les concours de poésie, d'éloquence, etc. Donc, vraiment, le désir, l'amour de la vie, de la terre, il sait ce que c'est.
Les chaleurs ardentes de la jeunesse me transportèrent tellement hors de moi-même que je vous abandonnais, Seigneur, pour suivre l'impétuosité de mes inclinations vicieuses. Je ne retins point mon incontinence dans les bornes légitimes du mariage. Mais en violant votre loi, je n'évitais pas vos châtiments. J'éprouvais toujours l'effet de votre présence par les peines et les plaies secrètes dont vous me frappiez pour mon salut, et ce traitement était d'autant plus doux qu'il paraissait plus sévère. Vous répandiez sur tous mes plaisirs déréglés des dégoûts d'amertume, afin de m'engager par ce moyen à chercher d'autres plaisirs qui fussent sans dégoût et sans déplaisir.
Les confessions, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, une histoire d'une rencontre. Confessio, en latin, ça veut dire pas seulement un aveu comme aujourd'hui, mais il y a, bien sûr, il y a le côté aveu par ceux qui se regardent d'un très sale œil, Augustin, mais avant tout, la confessio, c'est la confessio laudis, c'est une confession de louange. Il loue Dieu, il le loue, et il le remercie en même temps, il le chante. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il se dit, et j'ai dit, mais il lui dit, mais enfin, mon Dieu, qu'est-ce que vous avez bien pu me trouver ? Étant donné que je me trouve moi-même parfaitement dégueulasse et vous m'avez aimé, et vous m'avez aimé au moment même où je ne vous connaissais pas, où je ne me connaissais même pas moi-même, il y avait un vague type qui s'appelait Aurelius Augustinus et qui se livrait, en réalité, on a parlé beaucoup des péchés d'Augustin, il en remet un petit peu, mais il écrit ça quand il était évêque depuis déjà bien longtemps, mais il dit même un moment avoir une fois dragué dans une église, ce qui ne se fait pas, c'est pas convenable.
Où étais-je, Seigneur, et combien dans cet exil me trouvais-je éloigné des délices de votre sainte maison, en cette 16e année de mon âge, où la volupté commençait à dominer tyranniquement sur moi ? Où je me rendis esclave de cette impérieuse maîtresse, de cette folle et violente passion qui, à la honte des hommes, règne avec tant de licence dans le monde, quoiqu'elle soit condamnée par vos lois si saintes et si redoutables. Lorsque j'étais prêt à périr dans cette tempête, Mon père et ma mère n'eurent point le soin de me faire entrer dans le port du mariage, mais ils pensaient seulement à me faire apprendre à bien parler et à me rendre capable de persuader les hommes par mon éloquence. Quelle place accorder, Dominique Salin, au regard rétrospectif au sein des confessions, puisque c'est un texte qui est écrit sur le tard, évidemment, comme il se doit, puisque c'est une forme d'autobiographie, qui fait le récit souvent détaillé des turpitudes de son adolescence et de son passé. Si on l'a bien entendu dans le texte que j'ai lu, c'était issu du livre 2 des Confessions. Il semble regretter cette espèce de comportement adultère vis-à-vis de Dieu, dit-il, qui fait qu'il profite de la chair terrestre. Mais comme le dit Lucien Gerfagnon dans l'extrait qu'on a entendu juste avant, la voix du cher Lucien Gerfagnon, grand spécialiste d'Augustin, qui en parle sans doute mieux que n'importe quelle autre personne et qui nous a quittés l'an dernier, celui-ci, Lucien Gerfagnon, insiste sur le regard rétrospectif. Toutes les confessions sont écrites par un homme qui désormais croit en Dieu et du coup condamne sa vie passée au regard de cet amour-là. Et ce qui donne une tonalité très très particulière au texte des confessions.
Qui non seulement regarde son passé, mais surtout c'est un évêque qui va être lu, y compris par ses diocésains, par les jeunes gens de son diocèse d'Hippone. Hippone, c'est Beaune en Algérie, Annaba. Oui, c'est un regard rétrospectif. Il écrit les confessions 10 ans après l'événement. Il les a écrites probablement, il s'y est mis en 97. Donc il a 43 ans, il est converti depuis 10 ans, il est prêtre depuis quelques années, évêque depuis 2 ans. Alors bien sûr, il se juge avec sévérité. Mais comme le dit, comme il faut bien préciser, les passages que vous avez lus du livre 2 des Confessions, c'est pas l'Augustin adulte, c'est Augustin très exactement entre 15 et 16 ans. Justement parce que son père était pauvre et n'avait pas les moyens de lui payer les études à Tagaste, en attendant que un ou plusieurs riches citoyens lui donnent une bourse, Augustin a passé une année sabbatique, une année à ne rien faire. Il a passé une année à Tagaste, au village, sans rien faire. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Quand on est un Africain du Nord, que le soleil est bleu, que le ciel est bleu, que le soleil brille, que les filles sont belles, etc., qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on fait ce que fait tout adolescent normal. Tout adolescent normal. Donc, il a eu quelques aventures avec les filles. En effet, il allait à la messe pour draguer les filles, comme l'a bien remarqué Gerfagnon. Mais ça, c'est entre 15 et 16 ans. À 16 ans, je vous assure, quand il s'est marié, enfin plutôt quand il s'est mis en ménage, une forme de concubinat qui était tout à fait admise par l'Église, non seulement par la société romaine, mais par l'Église, dans la mesure où on n'était pas baptisé, car Augustin n'avait pas été baptisé. Il était fille d'une maman chrétienne, d'un papa païen mais tolérant, mais il n'a pas été baptisé. Parce qu'à l'époque, les hommes se faisaient baptiser sur leur lit de mort. On baptisait les filles, mais les hommes, on attendait qu'ils aient fait leur bêtise. Et lui, il en a fait, en effet, comme adolescent. Mais à partir du moment où il s'est mis en ménage, d'abord, il a profondément aimé sa femme. Et les 4 lignes qu'il consacre au renvoi de sa femme, un peu avant sa conversion, 2 ans avant, 1 an avant, montre que son cœur a vraiment saigné. Il l'aimait beaucoup et il lui a été fidèle. Donc, il faut tordre le cou à l'image d'un Augustin, Don Juan impénitent, etc. Pas du tout, pas du tout.
Ah, c'est lui qui insiste beaucoup dessus aussi. C'est lui qui parle de turpitude et qui regrette ses actes passés.
Mais oui, parce qu'il est moralisateur et puis il veut mettre en garde les petits jeunes gens auxquels il s'adresse. Et puis il reproche à ses parents de ne pas l'avoir marié plus tôt. C'est un petit peu hypocrite quand même, c'est un peu vache quand même de dire « mes parents, au fond, ce qui les intéressait, c'est ma réussite professionnelle. Le reste, ils s'en fichaient. » Bon, là, on sent vraiment l'évêque.
Comme dans toute confession, on retrouve la part de mauvaise foi
l'évêque,
nécessaire.
Voilà, l'évêque très, très conscient de ses responsabilités. Il faut qu'il fasse la morale aux jeunes et il dit aux jeunes gens « ne m'imitez pas ». Mais ne m'imitez pas quand j'avais 15 ans. Alors après, ce qui a été beaucoup plus grave à ses yeux, c'était son arrivisme. Dieu, naturellement, c'était son arrivisme. Alors, il est à 16 ans, donc il veut devenir un saint, et c'est à ce moment-là qu'il tombe dans une église très puissante, qui s'appelait l'église manichéenne, un espèce de spiritualisme très bon marché, qui avait beaucoup de succès, un dualisme, une gnose, qui satisfaisait ses aspirations spirituelles, mais dont il aperçut très vite l'inanité doctrinale et le manque de sérieux de ses prêtres. En fait, il a été quand même membre de l'église manichéenne pendant 9 ans. Il y a cru pendant 2 ou 3 ans.
Rappelons rapidement ce qu'est l'église manichéenne.
C'est une église, si vous voulez, ce sont des ancêtres des cathares. C'est-à-dire, c'est une doctrine, une gnose, qui dit qu'il y a deux réalités, il y a deux dieux à la base de tout.
Le
dieu
bien
du bien, le dieu du mal. Voilà, dieu de lumière, dieu de ténèbres. L'esprit, la matière. Tout ce qui est matière, y compris le corps, y compris la sexualité, c'est mauvais. Tout ce qui est esprit, c'est bon.
Ce qui est une manière de déresponsabiliser l'homme de tout mal commis.
C'est,
puisque très, le mal
reposant
est en dehors du bien.
C'est très reposant intellectuellement, et Augustin y a adhéré parce que ça le déculpabilisait. Quand il se surprenait à être arriviste, à mentir pour arranger la réalité, etc., etc., il disait « Ah, mais c'est pas mon âme bonne en moi, c'est pas mon âme spirituelle, c'est mon âme corporelle qui pêche. Donc c'est pas grave. » En effet, le manichéisme le déculpabilisait. Et c'était une des raisons pour lesquelles il y a adhéré. Enfin, il s'est rendu compte que ça ne marchait pas et finalement, il a abandonné le manichéisme. Bon, enfin, nous n'allons pas parler trop de l'itinéraire de conversion parce que je crois que vous allez en parler.
Ce sera le sujet de l'émission demain avec
voilà,
Marianne Vanier.
Ou après-demain, oui. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ce désir, ce qu'il constatait en lui, si vous voulez, c'était pas tellement la luxure. Pour lui, c'est pas le plus important. Encore une fois, c'est j'ai été idolâtre. J'ai recherché la réussite pour la réussite. J'ai recherché le fric pour le fric. Je n'ai pas trouvé le Dieu que je cherchais.
Il énumère ses péchés, les péchés de la chair, comme on dit au Moyen-Âge, nous revenons encore à ça. Mais le vrai péché d'Augustin, c'était pas côté chair, puisqu'il s'était même rangé très tôt. Il était déjà rangé à 18 ans, père d'un enfant, etc., avec une jeune femme qu'il aimait bien, bon, et ils sont restés longtemps ensemble. Bon, son vrai péché, c'était pas ça. Son vrai péché, c'était l'arrivisme. C'était un arriviste. Il voulait arriver à quelque chose. Et puis, il a rencontré Dieu par bien des intermédiaires et des intermédiaires païens, ce qui prouve que Dieu a de l'humour. Et ayant rencontré Dieu, il s'est aperçu que les honneurs, tout ça, c'est de la foutaise.
Mais comment on sait quand on est vraiment amoureux ?
Il y a quelque chose en vous qui s'émeut à la présence d'un être qui est incontrôlable et qui fait que le cœur bat, généralement. C'est une attirance, c'est un désir, c'est très très beau. Donc, faut pas trop se poser de questions, tu sais, c'est un état de fait. On est comme ça, puis tout d'un coup, c'est le bonheur, enfin l'espoir du bonheur, c'est un tas de choses. Mais enfin, c'est un trouble, un grand trouble, surtout quand c'est la première fois. Mais dis-moi, ton père m'avait parlé de Khaled ?
Oh non, mais mon père, il parle trop. Non, non, moi, je veux pas. Bah, tu vois, ce que tu m'expliques, là, moi, Khaled, bah, ça me fait rien quand je le vois.
Oui, bah, alors, c'est que c'est pas très sérieux.
Bah, c'est mon père qui veut, moi.
Ah, là, c'est un autre problème.
Toi, t'as déjà été amoureux ?
Oui, plusieurs fois, oui. Puis après, il est arrivé un autre amour, tu vois, plus grand encore. Et voilà, j'ai répondu à cet amour-là.
Combien j'ai connu d'inconnus, toutes de roses dévêtues. Combien de ces fleurs qu'on effleure et qui s'en trouvent puis se meurent. Que de larmes et de colliers au pied de mon lit ont roulé. Que de comédies, que d'ennuis pour de si frêles pierreries. Amour sans amour, amour sans amour, l'amour sans amour et sans visage.
À bien lire Augustin, est-ce que le véritable amour ne serait pas justement un amour qui parviendrait à coïncider avec lui-même et non pas un amour sans amour, qui est le propre de l'amour terrestre que chante Serge Gainsbourg. Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Il est 10h30, c'est le premier temps pour nous d'une série d'émissions consacrées à Saint-Augustin. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Salin, professeur de théologie aux facultés jésuites de Paris, qui vient nous parler de l'amour de soi et de l'amour de Dieu.
Il ne reste rien, je le crains, que ronce morte sans parfum. Amour sans amour, amour sans amour, amour sans amour, rien n'est plus triste. Amour sans amour, amour sans amour, mais qui sans amour existe? Combien j'ai connu d'inconnus.
Alors Dominique Salin, pour rebondir sur l'extrait des Hommes et des Dieux qu'on a entendu juste avant, donc réalisé par Xavier Beauvois en 2010, hein, le film qui inspiré librement de l'assassinat des moines de Tibérine en Algérie en 96, qui relate les difficultés que ces moines trouvent au sein de ce pays à la veille de la guerre civile et qui doivent sans cesse questionner leur engagement vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Comment caractériser ce qui fait non pas le passage de l'un à l'autre, ça c'est la conversion, on en parlera mercredi prochain, mais la spécificité de l'amour pour Dieu. Le moine qu'on avait entendu disait à cette jeune fille amoureuse, bon, on sait pas trop de quoi l'amour est fait. Oui, moi j'ai été amoureux de femmes avant de devenir moine, mais maintenant j'ai trouvé un amour supérieur. Que peut-on en dire de cet amour supérieur, dès lors qu'il est dans le domaine d'un amour, donc peut-être irrationnel?
Supérieur, supérieur. Y a-t-il un ou deux amours? C'est un grand problème. Mais il y a deux façons de vivre l'amour et de vivre le désir. Il y a une façon de considérer l'autre, ce qui est en face de moi, qu'il s'agisse d'argent, de succès, une personne même, une institution, de la considérer comme étant à mon service, pour moi, pour me gratifier moi-même, ou bien de considérer cet autre qui est en face de moi comme une fin en soi, que je ne peux jamais utiliser comme moyen. Et en réalité, il n'y a qu'un seul être qui mérite qu'on le considère comme une fin en soi, qu'on l'aime pour lui-même et non pas pour le bien qu'on en tire, c'est Dieu. C'est Dieu. Et ça, c'est la conviction d'Augustin. Il ne l'a pas trouvé tout de suite. Gerfagnon a bien raison de dire que l'histoire des relations d'Augustin et de Dieu, c'est une histoire d'amour et que les confessions sont une histoire d'amour. Les confessions, c'est pas seulement l'aveu des turpitudes, mais c'est la proclamation, confessio, la proclamation de quoi? De la miséricorde de Dieu pour Augustin. Dieu est quelqu'un qui l'a tiré de l'angoisse, de l'abîme, de la dépression dans laquelle il se trouvait. Car, une fois qu'il a quitté les manichéens, il est tombé, il a adopté, il s'est dit, c'est impossible pour l'homme d'atteindre non seulement le bonheur, mais la vérité. Il n'y a pas de vérité. Au fond, sur terre, tout est relatif, tout ment, tout le monde est mensonge, il n'y a pas de vérité atteignable par l'homme. Et dit-il, j'ai fait mienne pendant une année à peu près la doctrine de ce qu'il appelle les néo-académiciens. En fait, bon, ce sont des disciples un peu dévoyés de Platon qui professaient une forme de scepticisme très radical. Et il a sombré dans une véritable dépression. C'est le moment où il est arrivé en Italie, à Rome, donc 2 ans avant sa conversion. Il arrive en Italie, il est malade physiquement, il fait une dépression. Et une dépression qui va aller s'aggravant. Et il va être, ce qui va être la lumière pour lui, et lui faire entrevoir ce fameux amour dont vous me parlez, de l'amour de Dieu, c'est la découverte à Milan d'un cercle de philosophes tout à fait remarquables, qui étaient disciples de quelqu'un dont il n'avait jamais entendu parler encore, disciples de Plotin, donc c'était des néo-platoniciens, des plotinisants, mais des plotinisants chrétiens. C'était des chrétiens qui avaient fait leur la sublime doctrine de Plotin, qui est une forme de, disons, de platonisme 7 siècles après Platon, une forme de platonisme religieux, si vous voulez. Et ces néo-platoniciens chrétiens, parmi lesquels figurait rien moins que l'archevêque de Milan, Ambroise, ancien préfet de la province d'Émilie-Ligurie, que le peuple avait nommé évêque à 43 ans, alors qu'il était très haut fonctionnaire de l'Empire, comme Augustin. Bon, ces néo-platoniciens chrétiens lui ont fait découvrir une doctrine spirituelle, une doctrine philosophique, qui avait infiniment plus de consistance, évidemment, que le manichéisme.
Mais alors, de quel dieu parle-t-on ici? Puisque, pour reprendre le terme de Pascal, est-ce le dieu des croyants ou le dieu des philosophes?
Alors, Dans un premier temps, c'était le dieu des philosophes. Et je crois que
c'est-à-dire finalement le dieu qui permet de penser la vérité possible et le bonheur possible en ce monde. On est dans un choix presque rationnel ou un choix d'existence plus que dans la croyance.
Pas seulement rationnel. Il faut vous rappeler que philosophie à l'époque et sagesse, c'est une spiritualité. Plotin, dans le plotinisme, on prie. Dieu est un être personnel, c'est pas une idée, hein, c'est un être personnel. L'un plutôt, parce que
Plotin
ne parle jamais de Dieu, il est toujours l'un. Hein, bon, mais Dieu est un être, on prie. Plotin était le père abbé d'une communauté monastique. On se réunissait plusieurs fois par jour pour des exercices. Il y avait une ascèse alimentaire, matérielle, exactement celle qu'il y aura ensuite dans le christianisme. Donc, déjà, ce dieu néo-platonisant, ce dieu plotinien, ressemblait un peu au dieu chrétien. Mais, en fait, Augustin n'a pas beaucoup travaillé Plotin, enfin plutôt ce qu'avait écrit Porphyre, le disciple de Plotin, qui avait mis par écrit la doctrine de son maître et la vie de son maître. Il n'a pas lu ça, d'abord il ne lisait pas le grec, c'est le seul intellectuel de l'Antiquité à ne pas être bilingue, tout le monde était bilingue sauf Augustin, parce qu'il avait eu la flemme d'apprendre le grec, les déclinaisons à l'école, ça c'est une chose qu'il regrette de façon récurrente dans les confessions. Et en réalité, ce dieu, ce n'était pas encore le dieu chrétien. Même si on le prie, on a une relation affective avec lui, il lui faudra du temps pour... Et il va falloir, si vous voulez, que ces philosophes, ces intercesseurs, au fond, que furent le groupe des néoplatoniciens de Milan, lui présentent une version philosophique du christianisme. Mais encore un peu intellectuel, c'est vrai. Et il lui faudra un peu de temps pour que le Christ, parce que jusqu'à présent, il parlait de Dieu, pour que le Christ devienne celui, le visage humain de Dieu. Parce que Dieu, on ne peut rien dire de l'amour de Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Le Christ, on l'a vu. Il y a des gens qui l'ont vu, qui l'ont touché, qui en ont parlé, et qui disent qu'il est vivant. Et moi, Augustin, j'atteste que l'expérience de conversion que j'ai faite, c'est la personne du Christ qui m'a arraché au désespoir.
Ce qui ne l'empêche pas de se poser la question, qu'est-ce que j'aime quand je t'aime au livre 10 des Confessions ?
Pas de doute, mais une conscience certaine. Seigneur, je t'aime. Ta parole a transpercé mon cœur. Je t'ai aimé. Le ciel, la terre, avec tout ce qui est en eux, me disent partout de t'aimer. Ils n'arrêtent pas de dire à tous de t'aimer pour que nous soyons inexcusables de ne pas t'aimer. Plus fort encore, tu auras pitié de ceux que tu prendras en pitié. Tu manifesteras ton amour à ceux que tu aimeras. Sinon, le ciel et la terre parleraient de toi à des sourds. Qu'est-ce que j'aime quand je t'aime ? Ni la beauté d'un corps, ni le charme d'un temps, ni l'éclat de la lumière amie de mon regard, ni les douces mélodies des cantilènes sur un mode ou un autre, ni le parfum des fleurs, des essences et des aromates, ni la manne ou le miel, ni les membres enlacés dans les étreintes physiques. Ce n'est pas ce que j'aime quand j'aime mon Dieu. Et pourtant, j'aime une lumière, une voix, une odeur, un aliment, une étreinte quand j'aime mon Dieu. Lumière, voix, odeur, aliment, étreinte sont dans mon humanité profonde où il y a pour moi un éclair que ne retient pas l'espace, une sonorité qui échappe au temps, une exhalaison sortie d'aucun souffle, une saveur que n'affaiblit pas la voracité, un accouplement au-delà de la jouissance. C'est ce que j'aime quand j'aime mon Dieu.
La question qu'est-ce que j'aime quand je t'aime pose la question du rôle, alors comment le dire, peut-être de la matière en termes plotiniens, de l'existence terrestre dans l'amour de Dieu. Ici, dans l'extrait que Georges Claes vient d'interpréter, donc le livre 10 des Confessions, mais dans la traduction de Frédéric Boyer, qui lui nomme ce texte les aveux. On pourra revenir tout à l'heure à la différence entre les confessions et les aveux. Mais cette question de l'amour, qui n'est pas celle de la beauté d'un corps, ni le charme d'un temps, ni l'éclat de la lumière, pose la question de la modalité d'existence de cet amour. Et j'y reviens, Dominique Salin, s'il ne s'agit pas d'un amour terrestre, pourtant nous ne sommes pas loin du reflet de la matière. C'est ce que dit le texte lui-même. Il y a quand même une forme de lumière, de voix, d'odeur, d'aliments et d'étreinte dans cet amour. Comme une matière, mais de façon presque fantomatique.
Une étreinte, en effet. Mais vous savez, le livre de l'Ancien Testament qui parle le mieux de l'amour, le livre qui parle le mieux de l'amour, c'est le Cantique des Cantiques. c'est un poème d'amour dans lequel le nom de Dieu n'apparaît pas. Dans lequel le nom de Dieu n'apparaît pas. C'est l'amante qui chante, qui cherche celui qui n'est plus là. Elle le poursuit. Il chante le désir, ce cantique des cantiques. Il chante la poursuite, la quête, plus que la prise, pour parler comme Pascal, même s'il y a aussi le moment de la possession. Donc l'amour humain fournit traditionnellement dans le christianisme et déjà dans le judaïsme sa matrice pour penser les relations de l'homme et de Dieu. Alors chez Augustin, c'est pensé philosophiquement. Pourquoi ? Parce que cette étreinte, cette lumière, cette voix, ce parfum, cet aliment, ce ne sont évidemment pas les étreintes charnelles qu'on peut avoir avec un corps, un être extérieur à soi, avec des parfums, etc., matériels. C'est l'étreinte de... Alors c'est là que la traduction est très importante, et là Frédéric Boyer ne respecte pas le texte. Hein. C'est lumière, parfum, aliment, étreinte de l'homme intérieur qui est en moi. Et Frédéric Boyer traduit l'intériorité profonde. Bah, il fait rater l'essentiel. Parce que l'homme intérieur, c'est une expression de saint Paul qui, pour Augustin, a une importance capitale. Pour saint Paul, l'homme, c'est ou bien l'homme intérieur ou bien l'homme extérieur. C'est saint Paul qui fait cette distinction, qui est absolument capitale et fondatrice.
Qu'Augustin reprend dès le début des confessions.
Pour l'anthropologie d'Augustin, absolument. L'homme extérieur, c'est l'homme qui cherche le bonheur en dehors de lui, alors qu'en réalité, le bonheur, mais ça il ne savait pas au départ, il est en lui. Au fond de lui-même. Augustin est rentré en lui-même, c'est une image qui revient constamment dans les confessions, car c'est au fond de lui-même que l'homme, au fond de l'homme intérieur, qu'il trouve qui il est, sa véritable identité, qui est d'être image de Dieu, présence de Dieu. Pour Augustin et pour le chrétien, si vous allez au fond du fond du fond du fond, ou au sommet, les deux images sont équivalentes, de l'homme, de l'intériorité humaine, vous trouvez Dieu. Car l'homme est image de Dieu. L'homme vient de Dieu, il est image de Dieu. Alors évidemment, cette image, elle est recouverte par la rouille, elle est oxydée, elle est, etc. Mais justement, le travail de la vie spirituelle, c'est peu à peu de décaper ou de laisser se décaper cette image qui est en moi, donner le pas à l'homme intérieur sur l'homme extérieur.
Ce qui donne tout son sens au terme même de confession, à l'entreprise de confession, qui est un récit de soi de manière intérieure, dans une intimité peut-être insaisissable. Et c'est assez intéressant de voir que c'est dans une entreprise, qui est celle de saint Augustin, qui essaie de montrer sa conversion vers Dieu, naît un courant littéraire qui est celui de l'autobiographie.
Oui,
mais c'est la naissance du jeu.
Oui, mais ce qui est vous avez tout à fait raison. Personne avant lui n'avait mis ses tripes sur la table. Ouais. Parce que là, vraiment, il met ses tripes sur la table, sur 350 pages. Et personne ne le fera. Il faudra attendre 11 siècles. Quelle est la première autobiographie, ou la seconde autobiographie de la littérature occidentale? C'est l'autobiographie de Thérèse d'Avila. Les Essais de Montaigne ne sont pas vraiment une autobiographie, mais Augustin est resté sans égal pendant plus de 11 siècles. Mais Augustin, c'est l'homme occidental. C'est l'homme qui dit « je » devant Dieu. Il sera imité après, naturellement, Rousseau et les autres. Mais le « je », l'homme qui dit « je » devant Dieu, ça c'est l'homme occidental. L'autobiographie en Asie, ça n'existe pas, enfin ça n'a jamais existé. Enfin si, à l'époque moderne. Mais Augustin, c'est inouï, cet homme qui dit « je » sur 300 pages, avant lui, et encore une fois, 11 siècles après lui, personne n'aura fait ça.
Mais donc le paradoxe, c'est qu'au moment où il trouve Dieu, il se trouve lui-même.
Exactement. Dieu n'est pas celui qui veut ôter l'homme à lui-même. Au contraire, pour Augustin, Dieu, c'est celui qui rend l'homme à lui-même, à sa véritable humanité. Parce qu'en réalité, l'homme, l'humanité n'est jamais achevée. L'homme est constamment en voie de déshumanisation, guetté par la déshumanisation. Bon, l'histoire du XXe siècle nous montre ça. La bête en nous est prête à se réveiller à chaque instant. Mais Dieu, l'Évangile, à travers le Christ, aide l'homme à restaurer son humanité. C'est sa conviction profonde. Code of silence.
Merci beaucoup Dominique Salin d'être venu nous parler d'Augustin aujourd'hui. Pour le premier jour de cette série d'émissions consacrée aux philosophes, je renvoie à la lecture des Confessions, par exemple en folio classique, dans une traduction d'Arnaud d'Andilly, Les Aveux, la traduction de Frédéric Boyer, puisqu'on l'a évoqué, et puis aussi l'ouvrage de Lucien Gerfagnon, Saint-Augustin, le pédagogue de Dieu, qu'on trouve en Découverte Gallimard. C'est donc un ouvrage extrêmement accessible dont je recommande la lecture. Et enfin, Les Entretiens, que Lucien Gerfagnon a accordé à Raphaël Antoven, c'était en 2009, et disponible en CD dans une coédition Radio France INA. So go on your way accordingly, but know you're not alone. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais le concept d'amour chez Augustin par Hannah Arendt, qu'on trouve par exemple en Bibliothèque Rivage, apporte un complément de réflexion indispensable pour comprendre ce texte des Confessions. Donc, vous écoutez France Culture, Les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Encore deux minutes, papillon, parce que qu'est-ce que l'amour de Dieu? Eh bien, réponse au micro de Géraldine Mosna-Savoie, avec le prêtre missionnaire Bruno, pour qui l'amour de Dieu est un cadeau en tout point égal à l'amour humain. L'amour, dans les deux cas, est toujours quelque chose de fou.
Aimer Dieu, c'est un cadeau que nous recevons de Dieu lui-même, de notre Père qui nous aime à la folie. Aimer Dieu, donc, c'est un cadeau qui peut nous surprendre, mais qui est aussi très souvent un témoignage qui vient de notre connaissance de Dieu, de Jésus, de l'Esprit, de force, de courage. Je pense que c'est quelque chose qui est toujours un cadeau. L'amour de Dieu pour nous est un cadeau. Alors, notre amour envers Dieu, notre amour envers nos frères, c'est quelque chose qui doit nous émerveiller. Souvent, quand on vit cet amour, même entre nos frères, même entre nous, à chaque fois, nous recevons cette force, cette grâce d'en témoigner. De toute manière, c'est un émerveillement. Pensez à cette expérience dans l'amour entre un homme et une femme, c'est un émerveillement. Et cet émerveillement, de nouveau, c'est reçu de Dieu qui nous aime à la folie. C'est le même amour. C'est la même expérience que nous avons envers nos frères, envers le Seigneur qui nous aime, envers tous ceux que nous rencontrons. Voilà ce que j'appelle cet amour fou de Dieu qui devient aussi un amour fou que nous avons, que nous vivons avec ceux que nous aimons.
C'était les 2 minutes papillon par Géraldine Mosna-Savoie. Les Nouveaux Chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à Augustin, le philosophe rhéteur qui invente l'autobiographie en parlant de Dieu. Demain, Didier Ottaviani vous proposera une lecture du bien connu et redoutable livre 11 des Confessions à partir de cette question « Qu'est-ce que le temps ?» D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, c'est possible en vous rendant sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur la page Facebook de l'émission où toute l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour.